18h30, ici à Paris, 2h de moins en temps universel. L'actualité africaine avec vous, Nemo Ampis.
Et à la une, une foule venue nombreuse et un important dispositif sécuritaire devant la cour d'appel de Conakry, où comparaissait pour la deuxième fois l'opposant guinéen Aliou Ba. Une nouvelle fois, l'audience a été reportée, le compte-rendu dans un instant. Des opposants qui réclament plus de droits, c'était le cas hier en Tunisie avec cette rare manifestation dans les rues de la capitale. Les personnes présentes ont tenté de se dresser contre ce qu'elles considèrent comme de la répression. Le Maroc, touché par l'une des plus grosses cyberattaques de son histoire, des dizaines de milliers de fichiers jugés sensibles se sont ainsi retrouvés sur Internet. Certains médias locaux évoquent la vulnérabilité des infrastructures numériques du royaume. Les volontés de retour de Joseph Kabila en RDC, l'ancien président compte y revenir par l'est du pays et semble pouvoir compter sur un fort réseau, notamment d'anciens collaborateurs et de fidèles de longue date. Et puis, une confrontation devant la CIJ ce jeudi, le Soudan accuse les Émirats arabes unis de complicité de génocide au Darfour. En Guinée, nouvelle audience reportée dans le procès en appel d'Aliou Ba. L'opposant était une nouvelle fois face à la justice hier, où il comparaissait pour la seconde fois à la cour d'appel. Comme il y a 2 semaines, pas de débat de fond, la juge Fatou Bangoura a ainsi préféré renvoyer les audiences après des querelles de procédure entre le parquet et les avocats de la défense. Compte rendu de la journée d'hier avec Mouktar Ba.
Il y avait encore foule et un important dispositif sécuritaire devant la cour d'appel de Conakry. Pour assurer la sérénité des débats, le procureur a sollicité le huis clos. Une demande rejetée par le tribunal et dénoncée par les avocats d'Aliou Ba, maître Antoine Pépé Lama.
Le mal aime le secret car la vérité le condamne. Le ministère public, désarmé dans ses agissements, a voulu que ce procès se tienne à huis clos parce qu'il n'aime pas la transparence. Nous avons quand même regretté que le ministère public ait entretenu cette situation dans le simple but d'éviter que les débats évoluent pour que M. Mamadou Aliou Ba soit situé sur son sort.
La prochaine audience aura lieu le 16 avril. D'ici là, le leader du mouvement démocratique libéral reste incarcéré à la prison civile de Conakry. Une privation de liberté qui n'est pas du goût de son conseil, maître Antoine Pépé Lama.
Nous serons là à l'audience du 16 avril pour débattre de ce dossier et éventuellement plaider la relaxe pure et simple de M. Mamadou Aliou Ba, qui n'est retenu ici que pour ses opinions.
Dans ce dossier, le parquet a tout de même gagné une bataille. Le retrait des caméras, appareils photo et autres matériels d'enregistrement de la presse dans la salle d'audience. Les journalistes sont invités à couvrir les audiences seulement munis d'un carnet et d'un crayon. Mouktar Ba, Conakry, RFI.
C'est un mouvement assez rare pour être souligné. En Tunisie, plusieurs centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale hier mercredi pour défendre les droits et les libertés face à la répression des opposants politiques. Une clé date qui n'a pas été choisie par hasard. Le 9 avril marque le 87e anniversaire de manifestations populaires pour réclamer plus de droits politiques sous le protectorat français. RFI Tunis, Lydia Blaise.
Réunis sur la place Pasteur à Tunis, les soutiens d'Abir Moussi, présidente du parti Destouriens Libres et opposante politique, scandent des slogans pour réclamer sa libération. Elle est emprisonnée depuis 2 ans et poursuivie dans le cadre de 9 affaires, une injustice selon Raja Chebbi, une sympathisante qui porte un t-shirt rouge où est inscrit « Libérer Abir Moussi ».
C'est très important de nous mobiliser pour Madame Abir Moussi parce que nous considérons que nous sommes le seul parti sérieux dans l'opposition et le seul parti qui est en train vraiment de défendre les intérêts du peuple tunisien.
Sur l'avenue Bourguiba, d'autres manifestants, cette fois de la coalition du Front de Salut National qui rassemble des opposants au président Kais Saied, sont venus réclamer un procès équitable pour les détenus de l'affaire du complot présumé contre la sûreté de l'État. Le procès doit reprendre ce vendredi. Riyad Chebbi est l'un des accusés qui comparaît en liberté.
Malheureusement, l'audience de vendredi va se dérouler dans les mêmes conditions que celle du 4 mars, en l'absence des détenus.
En protestation d'un procès qui doit de nouveau se faire en visioconférence, plusieurs détenus sont entrés en grève de la faim. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
C'est l'une des pires fuites de données qu'a connu le Maroc dans son histoire. Des dizaines de milliers de documents sensibles, issus à la fois du ministère de l'Emploi et de la Caisse de Sécurité Sociale, se sont retrouvés sur Internet après l'action d'un groupe de hackers qui se fait appeler les Jabarut DZ. Ils affirment avoir opéré en représailles à une attaque menée contre le compte X de l'APS, l'agence de presse publique algérienne. Depuis Casablanca, les détails de Mathias Reynal.
Attestation de déclaration de salaire, listing d'employés de grandes entreprises rendues publiques, la fuite de documents confidentiels est massive. Les hackers disent avoir mis la main sur plus de 50 000 fichiers, 500 000 entreprises sont concernées, 2 millions de salariés marocains. Des informations sensibles ont ainsi été révélées, comme la rémunération de plusieurs personnalités influentes du royaume. Tout a commencé mardi par une série d'attaques informatiques dirigées contre le site internet du ministère de l'Emploi, mais aussi et surtout la base de données de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Les hackers se présentent comme les Jabarut DZ et sur leur chaîne Telegram, ils expliquent avoir répondu aux actions hostiles de pirates informatiques marocains qui ont, disent-ils, mis en péril le compte X de l'APS, l'agence de presse algérienne. Une revendication qui pourrait être un leurre, préviennent des experts en cybersécurité. Ils appellent à la prudence pour déterminer l'origine et l'objectif réel de ce piratage. Les médias marocains dénoncent à l'unisson la vulnérabilité des infrastructures numérique face aux cybermenaces, alors que les attaques se sont multipliées ces derniers mois au Maroc. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Des tensions toujours aussi vives entre le Mali et l'Algérie. Voilà une dizaine de jours maintenant après un incident concernant un drone malien détruit par l'Algérie à la frontière. Depuis, les ambassadeurs ont été rappelés, les espaces aériens fermés, et les accusations se multiplient. On a appris que les deux camps, Alger comme Bamako, ont sollicité le Conseil de sécurité des Nations Unies sans pour autant lui demander d'action spécifique. De son côté, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest exprime son inquiétude face à la dégradation des relations et appelle les deux pays à désamorcer la tension, favoriser le dialogue et utiliser les mécanismes régionaux et continentaux pour régler leurs différends. Lui veut revenir en République démocratique du Congo. On ne sait pas quand ni comment, mais on sait par où. L'ancien président Joseph Kabila compte revenir par l'Est, là où le conflit est toujours en cours. Il dit vouloir trouver des solutions face à la déliquescence qui gangrène les secteurs de la vie nationale. Mais avec qui à ses côtés? Élément de réponse avec Patient Ligodi.
Selon les informations recueillies par RFI, Joseph Kabila reçoit beaucoup à Harare, au Zimbabwe, où il réside de manière quasi permanente depuis un an. Des visiteurs venus de RDC, souvent anciens collaborateurs, certains fidèles de longue date et bien d'autres. Dans cette galaxie autour de Joseph Kabila, un nom revient régulièrement, John Numbi, ancien chef de la police nationale, puis inspecteur général de forces armées de la RDC. Il est actuellement recherché par la justice militaire congolaise. Kinshasa avait déjà demandé son extradition aux autorités zimbabwéennes en 2022. Et enfin en 2023, John Numbi avait publiquement menacé Félix Tshisekedi dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Joseph Kabila maintient aussi des contacts avec Kigali, avec le président Paul Kagame. Les relations se sont apaisées malgré des tensions marquées particulièrement à la fin de son mandat. Des émissaires de Joseph Kabila s'y sont rendus plusieurs fois dans la capitale rwandaise ces derniers mois. Un proche affirme « il n'y a pas d'animosité entre les deux hommes ». Et Corneille Nangaa, les deux hommes échangent, confirme un membre de l'entourage de Kabila, sans en dire davantage. Il y aurait également, selon nos sources, des leaders communautaires du Nord Kivu parmi ses soutiens, dont certains ont été liés à des groupes armés. Enfin, un autre cercle est actif en Europe, notamment en Belgique, avec des opposants récemment exilés.
Sur le plan diplomatique, les échanges ont repris entre les autorités congolaises et des représentants de la rébellion AFC M23 à Doha. Il s'agit là d'une deuxième session de discussion après celle de la semaine dernière, même si rien n'a officiellement été communiqué. Très peu d'informations sont disponibles à ce jour. La RDC, encore le groupe Mini Alpha Mine, a annoncé ce mercredi la reprise progressive des activités de la mine de Bissier, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Walikale, la troisième mine d'étain au monde en termes de production. Les opérations avaient récemment été suspendues en raison du conflit dans l'est du pays. Et puis notez ce nouveau bilan des inondations qui ont fait au moins désormais 43 morts à Kinshasa, 3000 sinistrés également selon des sources venues de nos confrères de Radio Okapi. En Tanzanie, le parti d'opposition Chadema indique que son président Tundu Lissu a été arrêté aux côtés d'autres membres du mouvement et placé en détention par la police après un meeting dans la ville de Mbiga, dans la région de Ruvuma. Et puis dans 5 jours, la guerre au Soudan entrera dans sa 3e année. Tout a commencé le 15 avril 2023 entre hommes du général Emeti et les paramilitaires FSR et ceux du général Al-Burhan de l'armée régulière. Le camp de ce dernier, qui dans une requête déposée le 4 mars dernier, accuse les Émirats arabes unis d'apporter un soutien financier, politique et militaire aux paramilitaires des forces de soutien rapide et donc de se rendre complice d'un génocide contre l'ethnie soudanaise massalite dans l'ouest du Darfour. Les Nations Unies évoquent entre 10 000 et 15 000 personnes, principalement issues de la communauté massalite, qui ont été tuées par les hommes du général Emeti. Khartoum demande à la Cour internationale de justice de reconnaître le rôle des Émirats et de les contraindre à payer des réparations. De leur côté, les Émirats arabes unis ont toujours nié soutenir les FSR et dénoncent un coup de communication cynique. Ils demandent à la CIJ de rejeter cette requête. Florence Maurice revient sur les enjeux de l'audience.
Selon Khartoum, les crimes commis par les forces de soutien rapide au Darfour n'auraient pas été possibles sans le soutien indirect, je cite, des Émirats Arabes Unis. Un soutien multiforme, appui financier, livraison d'armes, équipement militaire et même, je cite encore, formation de mercenaires. En 2024, des experts de l'ONU ont jugé crédibles les accusations selon lesquelles les Émirats Arabes Unis auraient acheminé des armes aux paramilitaires soudanais via l'aéroport tchadien d'Amjaras. En janvier de cette année, des parlementaires américains ont affirmé que ces livraisons se poursuivaient. Pour Khartoum, les Émiratis auraient ainsi violé la convention de 1948 sur la prévention du crime de génocide. L'un des points discutés ce jeudi lors des audiences à La Haye sera la compétence de la Cour internationale de justice dans ce dossier. Car si les Émiratis sont bien signataires de cette convention de 1948, ils ne reconnaissent pas la compétence de la Cour pour les juger en vertu de ce traité. Pour Khartoum, cette réserve n'a aucune valeur juridique car elle reviendrait à vider de sa substance le traité.
Les précisions de Florence Maurice et par ailleurs, sachez que les décisions de la CIJ sont juridiquement contraignantes mais qu'elle n'a pas le pouvoir de les faire appliquer. Elle a par exemple ordonné à la Russie de stopper ses opérations militaires en Ukraine quelques semaines seulement après l'invasion. Sans effet. À vous Clotilde Dumay.
Merci beaucoup Nemo en Peace.